Cordialement, Zoé.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Wilfried. Wilfried a eu un accident du travail, un enchaînement de mauvaises nouvelles qui l'a mené à la rue. Et avec nous, on a également Noah, qui travaille pour l'association Toi à Moi, une association qui aide les personnes sans-abri à changer leur vie en mettant à disposition un logement tremplin et en les accompagnant dans ce combat et dans leur nouvelle vie. Wilfried est ici avec nous pour nous raconter son histoire et son combat. Et avec Noah, ils sont les bienvenus. Bienvenue à tous les deux. Ça va, vous êtes bien installés, tout
oui,
va
super.
Bien.
Très bien.
Super.
Merci à toi de nous accueillir.
Eh ben, merci de venir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, ben moi je m'appelle Wilfried, j'ai 50 ans.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
21 ans, je suis à Lyon depuis le mois de septembre 2015.
Et toi, Noah ?
Et moi, c'est Noah. Je suis chargé de communication à l'association Toi à Moi depuis septembre. Et voilà.
Et ça se passe bien.
Ouais, c'est super, c'est ça. Et c'est moi qui ai emmené un peu toute l'équipe Toi à Moi dans cette aventure pour ce podcast.
C'est vrai. Donc du coup, le podcast, il va se diviser en deux. D'abord, il va y avoir le parcours de Wilfried. Et ensuite, on va parler plus en détail de l'association, de ce que vous faites, etc. Wilfried, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu faisais avant ton accident et ce qui s'est passé ?
Alors avant que j'arrive à Lyon, j'étais ambulancier où j'ai exercé ce métier pendant 15 ans. On était 17 salariés à Reims, l'entreprise s'appelait Ambulance des Ruelles. Et puis après, j'ai eu l'occasion de postuler au CHU de Reims où j'étais embauché pendant un an et demi à 80%. Et après, j'ai été titularisé très vite parce qu'au bout de 2 ans, j'étais titulaire. Et j'ai fait ça pendant 7 ans, ce qui peut avoir à peu près un total de 15 ans. Et puis je me suis dit, je ne me voyais pas encore à 55 ans, 60 ans, porter des brancards, travailler la nuit, les gardes de week-end et tout. C'est assez, assez fastidieux. Je me suis dit que comme j'aimais malgré tout le sens du contact, de la communication et j'aimais conduire, je me suis dirigé pour faire le permis bus.
Ok.
Permis D. Donc j'ai envoyé des CV un peu partout, et puis à Lyon, ils m'ont répondu. Donc j'y suis allé pour un entretien, et de là, j'ai été reçu. Ils m'ont dit, on vous prend. Donc j'ai fait les 2 mois de formation, j'ai fait l'examen, où je me plais à dire que j'ai eu 12 et 14.
Bravo.
Pas énorme, mais bon. Et le 26 décembre 2016, ma vie a un peu basculé, car une voiture poursuivie par la police a remonté la rue en sens interdit et est venu me percuter.
Avec ton bus, du coup.
En plein dans mon bus, où je, par chance, j'avais aucun passager. Mais ça m'a, moi, fait des problèmes de santé au niveau des cervicales. Et sur les 5 qui étaient à bord, ils en ont arrêté 2, dont le conducteur, qui était en défaut de permis et qui avait volé la voiture de son père. Donc, à la suite de ça, ils m'ont dit, est-ce que tu travailles, les responsables TCL, est-ce que tu travailles le lendemain? J'ai dit non. Ils m'ont dit, bah repose-toi. Ils n'ont jamais pris de nouvelles de moi. Moi, je me suis débrouillé tout seul pour aller voir la maison de droit et justice pour porter plainte quand même, parce que j'ai eu des problèmes cervicales, je prends un traitement. Et puis, j'ai demandé après à mes responsables de faire la formation de tramway. Pour être tranquille, ils m'ont dit non, on ne peut pas parce que tu es intérim et patati patata. Alors moi, je leur ai dit, ça faisait 3 mois et demi qu'ils montaient le bourrichon à dire que vous allez être embauché, vous gagnerez 3 500 €. Et pendant ce temps-là, je faisais des remplacements à 400-500 € par mois.
Et pourquoi, tu as eu ton accident, pourquoi après ils n'ont pas voulu te reprendre?
Je
ne
sais rien, moi je suis allé voir la maison de droit et justice pour porter plainte et la dame qui s'occupait de mon dossier, qui était une dame très gentille, Madame Casse, pour ne pas la nommer, elle a fait 2 courriers à TCL. Ils n'ont jamais répondu à aucun des courriers. J'ai trouvé ça pour une grosse entreprise qui embauchait quand même des centaines et des centaines de chauffeurs. J'ai trouvé ça pas correct du tout. Dans mon malheur, moi j'étais logé chez la mère de mon formateur qui me louait un 2 pièces dans son sous-sol qui, entre parenthèses, j'ai pas de chance, était une marchande de sommeil, parce qu'elle me demandait de payer 500 euros en liquide par mois. Comme ça, je pouvais pas faire de demande d'APL.
Ah ouais.
Après, elle m'a fait une surprise aussi. Un jour, j'ai reçu la visite d'amis d'Agen, un couple. J'étais content. Je leur dis, venez rester manger à la maison, puis vous pourrez dormir. J'ai un clic-clac. Et la grand-mère, 85 ans, elle me dit non, il n'y a personne qui vient chez vous. J'ai dit, madame, je suis désolé, mais moi, je vous paye tous les mois un loyer, j'ai le droit de faire venir qui je veux. Ah ben, elle dit non, mais alors, à moins que si vous me rajoutez 200 euros, ils peuvent venir. Je dis, là, je tombe des nues. J'ai appelé son fils, j'ai dit, écoutez, venez, parce que votre maman, elle perd les pédales. Là, je dis, et il me dit, il ne faut pas que tu fasses attention et tout. Je dis, oui, mais je dis, se moquer des gens comme ça, faire payer 500 euros par mois. J'avais pas de salle de bain, j'étais obligé de me laver dans sa salle de bain au-dessus. Et puis après, m'avoir laissé 2 jours pour partir.
Il y a eu combien de temps entre ça et ton accident? Le fait que, du coup, la grand-mère, elle te vire et...
Ah bah, il y a eu très peu de temps, en fait, parce que j'ai eu mon accident en décembre. Et puis le début février, elle m'a demandé de partir.
Et entre-temps, il t'avait toujours pas recontacté? T'avais pas de trouver d'un nouveau travail?
Non. Et donc, à la suite de ça, j'ai la chance que j'avais une petite voiture, une petite Saxo, je l'avais aménagée. J'avais mis un matelas dedans, je pouvais dormir allongé et tout. Je suis resté à Villeurbanne sur le parking de la bibliothèque. Pendant 11 mois, j'ai dormi dans ma voiture.
Et tu faisais quoi à côté? T'essayais de retrouver un travail et il te répondait toujours pas?
J'avais la chance d'avoir un petit peu de chômage.
Ok.
Mais après, je faisais un petit peu la manche aussi, quoi. Mm. Et puis, donc après, j'ai retrouvé un foyer. Mais alors, j'ai pas eu de chance parce que le foyer, il avait 60 ans, il était vétuste. On avait des copains cafards sur les tables. Mmh. On avait des puces dans les matelas et on payait 360 euros par mois.
Ah ouais. Donc c'était un peu compliqué.
Moi, je suis resté 4 mois, puis après, je suis parti. J'ai dit, je préfère encore rester dans ma voiture. Mmh. J'ai dit, de temps en temps, je me payais une petite nuit d'hôtel pour avoir la télé et puis avoir un peu de confort. Après, j'ai redormi chez un ami. Mais c'est pareil, au bout de 4 mois, ça n'allait plus parce qu'il me demandait, je ne sais plus combien d'argent, parce qu'il savait que j'avais un peu de chômage. Alors, il me demandait au départ 30 euros, puis après, c'était 40, ça remontait tout le temps. Je dis, un jour, je suis parti. Après, j'ai dormi 2 jours dans la rue. J'ai dormi dans un squat chez deux compères qui étaient marrants, mais ces petits gars-là, leur journée, ça se commençait à 7-8 heures du matin avec des bières,
ah ouais.
Des joints. Et ça se terminait à 2 heures du matin avec des bières, des joints. Donc je dis, moi, à un moment donné, je peux plus. Quoi.
C'est pas cette vie que tu avais envie d'avoir.
Ça ne va pas me faire avancer, ça. Hein. Moi, je ne buvais pas d'alcool, donc ça va. Je ne fumais que des cigarettes. Mais après, j'ai eu la chance, où je faisais la manche, à Sans Souci, de voir passer un jour le directeur du SAMU social, qui m'a vu dans la rue, s'est arrêté, m'a dit bonjour. Il m'a dit, est-ce que ça vous dirait de retravailler? J'ai dit oui, avec plaisir. On s'est revu le lendemain avec le responsable. Il a écouté ma situation. Il m'a dit, écoutez, vous êtes quelqu'un de franc, direct. Je dis, moi, j'ai rien à cacher. Hein, Et il m'a dit, écoutez, si ça vous convient, vous commencez la semaine prochaine. Alors, nous, on propose du travail aux gens en les réhabilitant petit à petit. Donc là, c'était 2 heures par semaine au départ. La deuxième semaine, c'était 4 heures. La troisième semaine, ainsi de suite, jusqu'à avoir, à la fin, je faisais 20 heures par semaine.
Ok.
Où c'était par l'association Les Petites Sœurs des Pauvres, où c'était du tri de linge que les gens donnaient. Alors le linge était lavé et c'était à nous de préparer pour les locaux, pour les personnes en besoin, soit des valises ou des cartons avec que des pantalons, que des pulls, que des trucs hommes, femmes, enfants. On faisait du triage comme ça. Et on avait le droit, si on trouvait des vêtements qui nous plaisaient, des chaussures, de les garder pour nous.
Oh.
À condition de ne pas en faire une boutique non plus, parce qu'il faut être logique. Que si on repartait tout le temps avec 10 kilos, ça serait posé des questions. Mais moi, comme ça, je pouvais me rhabiller assez régulièrement. Et puis, il y avait de quoi manger là-bas, froid ou chaud. Et puis, on pouvait se laver. Donc, tous les jours, je pouvais prendre ma douche après le travail.
D'accord. Ah, ça, c'est bien.
Donc, c'était bien. Alors, j'ai fait ça pendant 8 mois.
Et à ce moment-là, tu dormais toujours dans la rue?
Dans une tente.
D'accord.
Donc, j'avais eu la chance qu'un monsieur m'offre un matelas. Donc, j'avais mis un carton. Il y avait une petite descente où j'avais mis les cartons, le matelas et la tente par-dessus. Comme ça, j'avais pas de froid.
Ah, t'étais pas au sol.
Voilà, j'avais pas d'humidité. Et j'avais une grande bâche, comme ça on me voyait pas. Et je suis resté là pendant plus d'1 an et demi où On m'a jamais rien volé, j'ai jamais été. La police est venue une fois. Ils m'ont dit, bah, vous êtes quelqu'un de... On n'a rien à dire parce qu'il n'y a pas de plainte des voisins. Donc pour l'instant, on vous laisse là. Sachez que si on revient, ça sera pour vous dire de partir.
D'accord.
J'ai eu de la chance, quoi.
Et ça se passe comment, justement, la vie dans la rue? Est-ce que tu as des anecdotes?
C'est un bonheur.
J'imagine.
C'est un bonheur le matin d'avoir envie de faire pipi à 2h du matin puis de ne rien trouver d'ouvert. Donc, système D.
Tiens.
Dans les bouteilles. Et puis, mais après, il y avait possibilité aussi, il y a des douches, les bains-douches, qui sont gratuits. C'était ouvert du lundi au vendredi. Donc, je me lavais des fois tous les jours, des fois tous les deux jours. Mm-hmm. Puis après, rester un week-end sans se laver, c'est pas non plus... Voilà, je faisais pas des travaux de force. Et j'avais la chance de moi où j'étais, où je suis encore actuellement, quand je fais la manche, c'est que les gens me donnaient régulièrement à manger... après, ils me donnaient une pièce, alors ça me permettait d'acheter mes cigarettes, des recharges de téléphone, de temps en temps de me payer un kebab. Voilà quoi. Puis il y avait même des gens, une petite grand-mère qui promenait son chien tous les matins. Quand j'arrivais avant 7h30, j'avais mon café avec mes deux sucres. Le kebab, des fois, qui me voyait, m'offrait une barquette de frites, un kebab. Les gens qui étaient en terrasse, pareil. Il me voyait des fois, il me proposait un menu, des choses comme ça. Donc, j'ai jamais eu un plein. Franchement, j'avais largement de quoi manger. J'en donnais même des fois aux autres. Et puis, ce qui était marrant, c'est des fois, les gens voulaient m'offrir une bière. Je disais, c'est gentil, mais je bois pas d'alcool. Mmh. Ils étaient, ah bon, ah
ben, c'est vrai, ouais, y a un cliché où forcément
t'es clochard, t'es alcoolique. Mais non.
Tout le
monde ne boit pas de l'alcool. Il y a une fois où j'ai voulu, parce que j'adore le Lombrosco. Un petit vin pétillant italien. J'ai acheté une bouteille. Et ben, le lendemain, j'avais mal à la tête. Alors qu'il faisait 8 degrés. C'est pas fort.
Ah ouais, non.
Donc ça veut dire que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas bu d'alcool que le lendemain, j'avais un petit mal de tête. Alors j'ai rigolé, quoi.
Et justement, les clichés qu'on a des gens qui vivent dans la rue, est-ce qu'ils sont vrais? C'est quoi un peu les clichés à déconstruire?
Le cliché où on peut dire que les gens qui sont à la rue boivent, malheureusement, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont avec leur bouteille de bière ou leur bouteille de vin. Mais on ne peut pas se permettre de juger les gens qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quelle était leur situation avant, qu'est-ce qu'ils ont subi, quels sont leurs traumatismes ou leurs peurs. Je veux dire, moi, je sais que quand j'avais des problèmes, je grignote beaucoup. Alors, il y a des fois, dans la nuit, je n'étais pas bien. Si jamais un saucisson, le pauvre, il y passait. Voilà, ou du chocolat, ou des trucs comme ça. Après, les clichés, c'est que... On dit souvent que c'était... Moi, je me faisais le cliché, personnellement, de clochard, d'un petit pépère de 50 ans. Mais malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes.
Ah ouais.
On voit énormément de jeunes, aussi bien... Et des femmes aussi, qui sont à la rue. Et moi, ça m'a un peu choqué quand j'ai vu ça, parce que je voyais des jeunes de 20, 22, 25 ans. Et le mec, il me disait, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que je suis à la rue.
Ah ouais.
Problème familial, il a été jeté, voilà. Pas de discussion, ou très peu. Et puis, c'est ça qui m'a beaucoup étonné. Après, les préjugés qu'on a, tous les clochards ne sont pas sales. Il y en a qui ont un peu de dignité, puis qui savent rester propres sur eux. Mmh. Et après, la difficulté, c'est justement de pouvoir sortir de cette situation de la rue.
Ouais. Est-ce que t'as retrouvé un travail?
Oui. Après, j'avais retrouvé un peu une petite agence d'intérim pour... comment on appelle ça? Une agence d'intérim de réinsertion pour les gens qui sont restés longtemps sans travail.
OK.
Et là, je faisais des ménages. Moi, j'aimais pas. Mais bon, fallait le faire. C'est des ménages dans les immeubles. Mais on voit des choses horribles, ils sont crades. Enfin, je passe ce que j'ai vu, quoi. Et à un moment donné, j'ai vu la responsable, j'ai dit, moi, j'arrête, ça me plaît pas du tout. Je voyais un mec qui sortait de l'immeuble, il pissait contre le mur. J'ai dit, il peut pas remonter chez lui, aller aux toilettes. Non, il faut qu'il pisse sur le mur de l'immeuble. Et ça, c'est des maigres choses de ce que j'ai vu.
T'es pas leur boniche, quoi.
Voilà, donc... Où c'est pareil, les conteneurs, ils sont pleins, les gens, ils vont poser ça à côté, ils s'en foutent. Alors qu'il y a d'autres conteneurs où je sais pas, quand la chose, le truc est plein, je vais voir ailleurs si je peux le mettre. Mais plein de choses comme ça. Alors moi, à un moment, je dis j'arrête parce que ça m'énerve, c'est pas pour moi. Donc je faisais aussi un peu de cuisine dans des petites cantines pour les petits enfants de maternelle ou de petites sections. Et je faisais aussi le ménage des toilettes et tout ça, et ça, c'était bien. Et puis après, ben, j'ai arrêté et j'ai recherché du travail en tant que chauffeur de bus ou de livraison, mais il fallait que je remette mon permis à jour. Il fallait surtout que je refasse mes lunettes, parce que j'avais dans le squat perdu mes lunettes. Après, j'avais perdu aussi mon permis de conduire, donc il a fallu que je fasse une demande à l'Agence nationale de traitement sécurisé. Ça a pris du temps parce qu'eux, ils me disaient, si au bout de 2 mois, vous n'avez pas de réponse, considérez que c'est refusé et il faut refaire une demande. Ah ouais. Donc je dis quand même, c'est un peu pas sympa, parce que je dis, c'est deux photos d'identité, plus le timbre fiscal.
Ouais, tu fais toutes les démarches qu'il fallait.
Pour recommencer. Et puis après, je ne sais plus combien il me restait de points, donc j'avais un doute. Et un jour, j'ai eu la surprise, parce que je téléphonais à l'NTS et je leur dis, j'ai pas mon permis, comment ça se fait? Ben monsieur, vous avez plus de points sur votre permis. Et la dame au téléphone, elle me dit, non mais c'est une plaisanterie. Et je lui dis, mais j'ai l'air de plaisanter, de vous appeler puis de vous dire... Alors elle dit, attendez, je vais voir mon responsable. Le responsable me parle, il me dit, écoutez, faites-nous une copie de cette lettre et puis envoyez-la nous et on pourra traiter votre dossier. Et quand j'ai envoyé la lettre, 8 jours après, j'avais mon nouveau permis.
Ah ouais. Et là, parce que ton but après, c'est justement de reprendre le travail, voilà, que tu avais avant.
Là, j'ai vu une annonce, même si c'est que pour temporaire, une annonce où ils cherchent un livreur, on serait deux dans le camion, où on charge le matin le camion, puis on fait les livraisons et on revient.
Ok.
En parallèle de ça, j'ai fait aussi une demande de dossier de MDPH, d'adulte handicapé.
Ok.
Parce que j'ai des antécédents médicaux et un médecin me disait, mais avec ce que vous avez, je ne comprends pas, vous n'avez jamais fait cette demande. Parce que dit, vous, avec ce que vous avez, si vous n'avez pas le droit à cette aide, enfin à cette allocation, je ne sais pas qui aura droit. Parce que j'ai fait 5 occlusions, j'ai été opéré 4 fois, j'ai une cicatrice de 35 cm long. Okay. Là, j'ai une cicatrice de 15 cm de la vésicule. J'ai la clavicule, une double fracture, parce qu'un scooter m'a rentré dedans en grillant un feu rouge. J'ai une sciatique chronique à la jambe gauche, j'ai fait une phlébite au mollet gauche, une phlébite au mollet droit,
ah oui.
Une phlébite à la cuisse droite.
Tu les accumules là.
Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai eu aussi, une embolie pulmonaire aux 2 poumons, 2 années de suite. Mmh. Et je fais un peu d'emphysème, c'est-à-dire les poumons qui sifflent un peu quand je respire.
Okay.
À fond, bah, ça siffle. Et donc il me dit, si tout ça, vous n'y avez pas droit, il dit, moi je comprends pas.
Ouais.
Et j'ai encore un restant de plomb dans le dos, parce que quand j'étais jeune, à 16 ans, j'ai fait une bêtise énorme, que je ne souhaite pas que ça arrive à d'autres, c'est de prendre l'arme de guerre de mon grand-père et de jouer avec.
Ah.
Et le coup est parti, parce que je ne savais pas qu'il y avait une balle dedans.
Oh là là.
C'était une balle de long rifle, le coup est parti dans le ventre, et elle est ressortie tout près de la colonne. Et le chirurgien m'a dit, vous avez une chance qu'elle a touché aucun organe vital. Mais elle a quand même mis une claque au nerf sciatique.
Bah ouais, c'est pas négligeable.
Au lieu des 430 que j'ai du RSA, parce que je suis pas à la rue, j'ai un appartement.
Oui, c'est ce que j'avais demandé. Ouais.
Et avec l'allocation d'adultes handicapés, j'aurais la possibilité, sans rétrograder le montant de mon MDPH, de travailler 20 heures par semaine. Donc, 20 heures par semaine, ça peut me faire 600-700 euros par mois.
Et justement, avant que tu retrouves un appartement, est-ce que dans la rue, tu as une anecdote qui t'a marqué et dont tu te souviens,
que ce soit positif? Une chose que je me souviendrai toute ma vie, c'est malheureusement, quand je le dis, c'est très très dur, mais j'ai perdu ma maman et je n'ai pas pu aller à l'enterrement parce qu'ils habitaient au Maroc. Et j'étais étonné parce que j'appelais toutes les semaines ma mère et on se parlait, on se donnait des nouvelles et tout ça. Mais je ne lui ai jamais tenu au courant de ma situation. Parce qu'elle était déjà malade, elle avait la maladie de Lyme, et je ne voulais pas qu'elle soit encore plus inquiète. Et puis j'étais inquiet parce que ça faisait 2-3 semaines, je n'arrivais pas à la voir. Et j'ai téléphoné à mon frère, il m'a dit, écoute maman, elle est à l'hôpital, j'en sais pas plus. Donc je me dis, bon, je dis, ça ne doit pas être grand-chose, que je dis, elle avait déjà eu, elle a attrapé le Covid, elle s'en est sortie, donc je dis, ça ira. Mais quand j'ai appelé le médecin, il m'a dit, vous savez, votre maman, elle était hospitalisée et la maladie a malheureusement pris beaucoup, beaucoup, beaucoup le dessus. En plus, elle a eu une septicémie. Et quand j'ai rappelé le soir, et c'est là qu'il m'a dit, votre maman, on l'a mis sur respirateur artificiel, faut s'attendre au pire.
Mmh.
Et bien, elle est morte le soir même. Et je m'en suis voulu parce que ça faisait 7 ans que je ne l'avais pas vue. Et j'aurais bien voulu la voir une fois avant qu'elle parte, quoi.
Il faut pas t'en vouloir là-dessus.
Non.
Tu pouvais pas savoir.
Ben non, je pouvais pas savoir et je pouvais pas en plus aller au Maroc parce que je savais pas qu'il fallait un passeport. Moi, j'en avais pas à l'époque. Et j'ai encore une photo où ma mère est allée à l'hôpital où elle fait un grand signe avec un sourire. C'est la dernière photo que j'ai d'elle.
Oh bah c'est une belle photo si elle sourit dessus. Ah, c'est un signe. Elle, peut, oui, ouais. Elle t'envoyait ça au moment où elle t'était pas là, mais elle t'envoyait ça.
Elle pensait à moi quand même.
Bah hein. Oui. Comment ça s'est passé ta rencontre avec toi à moi?
Eh ben, c'est en travaillant à des signes, là. Le responsable me dit, je vais essayer de me renseigner pour trouver des associations qui pourraient éventuellement te loger. Il en avait trouvé une paire, mais dans le groupe, il y avait l'association Toi à Moi. Il me dit, ça peut être pas mal parce qu'ils ont des appartements qui louent aux gens qui sont à la rue et pour leur permettre de refaire soit leurs papiers, soit pour reprendre pied un peu tout doucement et tout ça. Et après, de les aider à retrouver un autre logement. Alors, il me dit, moi, je dis, t'aimerais bien que je t'y inscris? Je dis, oui, je serais très content. Alors, il m'a inscrit, et là, j'étais à l'entretien, où il y avait deux ou trois femmes, je sais, trois, je crois qu'elles étaient. Et puis, c'est tout, elle me dit, on vous tient au courant. Parce qu'elle me dit, vous êtes trois sur le logement. Là. Mmh. Moi, je dis, donnez-moi les noms, comme ça, je vais mettre des...
Tu t'en occupes.
Voilà, je vais éliminer la concurrence. Et elle me dit, vendredi, on vous rappelle dans l'après-midi pour vous donner la réponse. Ah ben, je dis, souhaite. Et puis, arrive 4h30, 5h, j'ai pas de nouvelles. Je dis, bon, laisse tomber, je dis, c'est mort. Et elle me rappelle, elle me dit, écoutez, on a un souci, c'est que vous êtes toujours deux sur l'appartement. Alors, je lui dis, bah, écoutez, ça dépend comment est la personne, hein. On peut s'arranger. Et elle me dit, non, mais sans blague. Et alors, elle dit, on va y retravailler ce week-end et on vous retient au courant lundi si c'est vous qui avez l'appartement. Donc, ils m'ont rappelé lundi et j'ai eu la chance qu'ils me prennent...
Trop bien.
Qu'ils me passent l'appartement, quoi.
Trop bien.
Ça, c'est pareil, quand j'ai fait l'entretien et tout, j'ai rien caché. Je vous parlais librement, sans tabou. Mais je dis non, j'ai pas de porte cachée, j'ai pas de faux semblant. Je dis, quand je dis quelque chose, je le dis, puis c'est tout. Si ça plaît, bah, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, qu'on me le dise, comme ça, après, j'évite le sujet. Et c'est comme ça que j'ai connu toi, moi, ou le permis, quand j'avais des documents où il fallait que je puisse les faire en papier, j'allais les voir et tout ça. Et puis avec eux, au départ, je me suis un peu fermé. Ça, c'était un petit peu dur de s'ouvrir. Et après, ils m'ont même envoyé une lettre d'avertissement parce qu'ils m'ont dit, nous, on ne peut pas continuer à travailler avec toi si tu ne te confies pas ouvertement et si tu viens pas sereinement. Quoi. Donc après ça, il est venu une fois, le responsable et tout, il m'a mis les points sur les. Puis après, j'ai dit, allez, n'ayez pas peur, c'est des gens qui sont là pour la bienveillance. Et pas, voilà, quoi. Et il est là, alors là, c'était beaucoup mieux. On a pu faire des activités, des sorties, voilà quoi, c'était...
Trop
et
bien.
Depuis, ça marche toujours comme ça.
Ça fait combien de temps, là?
Ça fait 2 ans et demi.
Trop bien, et du coup, Noah, t'es là avec nous. Du coup, toi, t'es chargée de communication, c'est ça. Et concrètement, l'association, vous faites quoi pour les sans-abri?
Alors, l'idée, c'est que l'association Toi, Moi, elle accompagne les personnes. D'abord, on leur met à disposition un logement. Et l'objectif, nous, c'est de les accompagner vers la sortie, une sortie durable, et on les accompagne... le temps qu'il faudra, en fait, c'est ça. C'est grâce aux dons des parrains, marraines, on peut acheter des logements.
Okay.
Aujourd'hui, des logements qu'on est propriétaire. L'association est propriétaire aujourd'hui d'une 60aine de logements dans toute la France.
Ok, trop bien.
Et grâce à ces logements, le fait d'être propriétaire, ça permet de transmettre le logement une fois que la personne est partie aussi à d'autres personnes.
Ah oui, bah
et c'est une boucle, en fait, et c'est ça l'objectif. Et une fois la personne rentrée dans le logement, on les accompagne. Il y a un accompagnement qui est fait par les responsables d'action, les responsables d'accompagnement des antennes dans toute la France. Et cet accompagnement, il est fait... D'abord, les personnes, elles arrivent forcément avec des problématiques. Chacun arrive... on a des personnes très variées à l'association, que ce soit par l'origine, par le parcours. Et du coup, il y a forcément... Quand on dégringole à la rue, il y a tout un parcours qui est difficile. Donc, il y a des problématiques aussi à régler.
Oui, il faut comprendre les histoires.
Oui, c'est ça, exactement. Et les responsables d'accompagnement, qui sont des personnes qualifiées, qui ont fait des diplômes pour ça, ils peuvent accompagner les personnes sans abri à toi, moi. Et donc c'est ça, c'est des accompagnements au quotidien, des temps d'échange, comprendre la personne et aussi parler avec elle de ses envies futures, de les accompagner vers des projets de vie, un nouveau projet de vie en fait. C'est ça qu'on aime bien dire à toi, moi, c'est qu'on accompagne les personnes vers un nouveau projet de vie. Et cet accompagnement, il est vraiment très important. Et aussi, à toi, moi, on dit qu'on tisse des liens avec les personnes. Et les bénévoles, là, jouent, je pense, un rôle important parce qu'ils sont là au quotidien. Ils organisent des sorties, des repas. Des fois, vous allez au concert, Wilfried, je pense que tu as dû faire des sorties, des repas.
Ah oui, des sorties ciné où on faisait... après-midi, jeux de société, petit goûter ou des choses comme ça.
Et c'est des temps forts, je pense, importants. Mmh. Enfin, j'en suis sûr, c'est des temps importants où c'est des temps d'échange. Ça permet aussi de... Parce que les personnes sans-abri, c'est des personnes qui... Enfin, ils sont... Malheureusement, il y a une exclusion aussi de la société. C'est triste, mais c'est la réalité. Et le but, c'est de recréer du lien et se réintégrer aussi progressivement dans la société. Et là où les bénévoles jouent un rôle important, c'est qu'ils font le lien entre les personnes qu'on accompagne et les personnes les autres personnes, les personnes de l'antenne, où là où il y a des liens de confiance qui se créent et petit à petit, on avance vers un nouveau projet de vie tous ensemble. C'est ça, c'est là, ça l'objectif, c'est on loge, oui. On offre un logement parce que le logement, c'est la base, c'est revenir dans un lieu de confiance, pouvoir se reposer, ça c'est très important. Mais derrière, c'est plus que ça, c'est les accompagner vers un nouveau projet de vie en fait. Okay. C'est un logement tremplin, on utilise beaucoup ce terme, c'est logement tremplin
pour redonner un peu toutes les clés qu'il faut
Et rebooster les personnes parce que moralement, il y a des parcours de vie très très difficiles et du coup... C'est aussi les rebooster, savoir ce qu'ils veulent faire et les accompagner, parce que ça peut être aussi que ce soit dans des démarches administratives, que c'est très compliqué. Une personne qui aujourd'hui arrive en France, qui est d'origine étrangère, qui arrive en France, il y a des démarches administratives à faire. Il y a aussi des personnes qui ont malheureusement des problèmes d'addiction. Donc là, l'association joue aussi un rôle pour les aider dans cela. Et voilà, c'est régler d'abord la problématique pour ensuite les accompagner vers ce qu'elles souhaitent.
Et jusqu'ici, vous avez aidé combien de personnes ?
Alors, on a aidé plus d'une... l'association, aujourd'hui, a 15 ans et on a accompagné 160 personnes, à peu près.
Trop bien !
Donc, grâce Bravo. À nous... merci. Grâce à nos parrains marraines, nos donateurs et aussi les entreprises mécènes.
Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, on a le cliché que les gens à la rue, c'est des gens addicts, etc. Mais on voit aussi, à travers ton histoire, que ça peut arriver à tout le monde, que c'est un enchaînement, en fait, de situations... Une mauvaise nouvelle et une autre mauvaise nouvelle. Et en fait, ça peut vraiment...
On perd un emploi, on perd sa compagne ou son compagnon. Après, ça va très vite, la dégringolade. La spirale, elle joue très vite. Et pour remonter, ça peut prendre un certain temps.
Ouais, et vous avez des histoires comme ça. Enfin, c'est pas que les clichés qu'on a, quoi. La plupart des gens que vous aidez, c'est des histoires aussi comme ça, de dégringolade, de mauvaises nouvelles.
Oui, c'est ça. Forcément, il y a beaucoup de personnes avec des profils différents, que ce soit l'origine. On n'est pas tous aussi... On n'est pas tous avec les mêmes opportunités de la naissance.
Les mêmes moyens, les mêmes chances.
L'entourage, notamment l'entourage. Il y a des personnes qui ont eu des problèmes au niveau de l'enfance. Il y a aussi des réalités à la rue. Enfin, il y a des... La question de la femme à la rue, c'est il y a une réalité derrière où malheureusement, je pense que plus de 80% des femmes sont violées à la rue. Et il y en a beaucoup qui se retrouvent avec des enfants dans la rue. Et du coup, on dit beaucoup que les femmes, c'est vrai qu'on peut se dire on n'en voit pas tant que ça à la rue. C'est l'image qu'on a, mais en réalité, c'est qu'elles se cachent aussi, par honte. C'est à se cacher.
Par peur.
Par jugement et aussi parce qu'il y a un danger en fait.
Oui,
il y a un danger qui est réel. Les personnes qui sont alcoolisées, droguées, c'est un fait. Mais aussi derrière, pourquoi aujourd'hui les personnes se droguent et c'est peut-être aussi pour oublier certains problèmes du quotidien. Et je pense que il y a une réalité certes, mais l'objectif c'est d'accompagner les gens vers la sortie.
Et comment justement nous, en tant que personnes... lambda, on va dire. On peut aider les personnes dans la rue, alors en passant par une association, mais sinon, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qui est le plus utile, comment on peut vraiment aider concrètement?
Bah, je pense que déjà, il y a un changement de mentalité, je pense, à aussi avoir. Parce que la question du sans-abrisme, la cause, c'est, on parle beaucoup des causes environnementales, des causes aussi liées à la santé, ce qui est des causes très importantes aussi à défendre. Toute cause est essentielle et est importante à défendre. Mais on entend beaucoup de préjugés sur le sans-abrisme. Et c'est aussi le regard en fait, qu'ont les gens, enlever et casser ces codes et c'est la société en fait qui a instauré ça et c'est aussi voilà aller vers un, ça peut être juste un sourire en fait il y a vraiment cette question de on ignore en fait on ignore les personnes ces personnes et je pense que
c'est dur ça de
Wilfried peut en témoigner mais passes à côté de toi que personne te calcule que c'est en fait t'es transparent voilà pour les personnes
Tu te sens un peu déshumanisé
alors qu'un regard comme ça bonjour bonne journée ce serait tellement plus simple
Oui c'est vrai ça coûte rien en plus
je veux dire on demande pas enfin moi personnellement je fais la manche je demande rien aux gens je m'installe je mets mon petit pot avec un peu de pièces dedans et je ne dis rien. Je n'harcèle pas les gens à dire excusez-moi vous n'auriez pas une petite pièce parce que j'ai pas à manger parce que je suis à la rue parce que non. Les gens s'arrêtent, ils veulent donner, ils donnent. Ils veulent me proposer quelque chose, j'accepte, j'accepte pas. Mais voilà. Mais simplement, le fait que les gens passent, et puis un signe de tête comme ça, bonjour, c'est quand même plus valorisant pour la personne qui est dans la rue que de passer comme ça, t'ignorer ou fumer, puis voilà, t'es comme une cendre, t'es rien. Ce serait déjà un beau geste.
Oui, c'est ça. Oui, parce qu'au final, on est tous les mêmes, quoi. C'est juste un parcours qui est différent. Voilà.
Mais je pense qu'avant tout, c'est ça, c'est la mentalité. C'est que ce soit un sourire, offrir un repas, c'est bien. C'est déjà, on irait vers quelque chose de mieux. Mais après, forcément, ça a sa limite. Même si on donne un repas à une personne qui est à la rue, c'est très bien, mais du coup, la personne reste à la rue.
Oui, c'est plus éphémère, on va dire.
Oui, c'est ça. Et donc, là où des dispositifs aujourd'hui, comme toi, moi, peuvent permettre de sortir les personnes de la rue, on a réussi à sortir énormément de personnes de la rue. Et ça peut passer par des petits dons. C'est pas forcément des gros dons, mais des petits dons qui, accumulés, peuvent permettre d'acheter des logements, accompagner des personnes vers la sortie, en fait. On n'est pas de l'hébergement d'urgence. On accompagne le temps vraiment qu'il faudra et notre objectif c'est de sortir les personnes de la rue et de leur trouver un nouveau projet en fait.
Wilfried, toi comment t'as réussi à toujours avoir espoir même quand t'étais dans des moments où t'avais plus rien à te dire non je baisse pas les bras je vais pas vers me décourage
ça,
pas.
Ça peut paraître un peu peut-être pas forcément bizarre mais quand j'ai eu mon accident par balle, le souci, c'est que je suis resté quand même assez longtemps en réanimation et mon sort était un peu délicat. Et quand je m'en suis sorti, je me suis dit, mais moi, je vais vivre ma vie sans me prendre la tête. Parce qu'avant, je me disais, j'ai un découvert, je suis à découvert de 100 euros, je me faisais une panique. Et bien maintenant, je me dis, c'est tout, le banquier l'a passé sous, il va attendre. Faut pas que ça me stresse. Bien sûr, j'y pense. Bien sûr, je fais ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus ou que j'essaye de résoudre le problème rapidement. Mais je ne vais plus me mettre Marcel en tête et me faire mal à la tête ou au ventre parce que j'ai des soucis. Je me dis, les soucis arrivent, on va les traiter un par un et on va se dire, on va y arriver. Ça va, pour certains, ça va être très, très long. Mais si on est motivé, si on se dit, on va y arriver, on va y arriver. Mais donnons-nous le temps, on le fait petit à petit et on avance. Et après, on se dit, tiens, tu te souviens, il y a 6 mois, j'avais ça, ça c'est fait, ça j'ai remboursé, ça j'ai plus de problème de ça. Et puis voilà, et puis les choses arrivent comme ça. Et je me dis que la situation que j'ai eue, c'est une expérience que le bon Dieu m'a dit qu'il fallait que je fasse. Je la fais, puis voilà, je l'accomplis comme je peux, du mieux que je peux, et en me disant que je ne suis pas une victime, que je suis une victoire. Et la victoire s'acquiert petit à petit.
C'est vrai, c'est beau cette phrase.
Elle n'est pas de moi.
Ah, de qui ?
Elle est de l'humoriste Ahmed Silla, qui c'était en mémoire à son papa. Et à la fin, son papa dit « Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des victoires. »
Eh ben, on garde en tête. Voilà. Donc là, maintenant, t'en es où? Du coup, tu t'attends les...
Eh ben, j'attends les résultats, là, d'aller voir les postes que j'ai vus, que France Travail... maintenant, c'est France Travail. Avant, c'était NPE, Pôle emploi. Après, ah ouais. Demain, je ne sais pas quel nom ce sera. Bling, bling, bazar, je ne sais pas. Et j'attends les réponses. Enfin, je peux déjà aller les voir avec un CV et me présenter directement en candidature spontanée. Et puis après, attendre le résultat de la décision de la CAF pour mon dossier d'adulte handicapé.
Est-ce que vous avez un message pour les personnes qui nous écoutent?
Je pense que l'objectif principal, enfin l'idée principale, c'est d'avoir un regard, je pense, différent sur les personnes sans-abri et se dire qu'en tant que citoyen, on peut tous agir pour la cause. Et un petit don, c'est déjà énorme, en fait, parce que imaginons que si aujourd'hui, si à toi et moi, si 100 personnes donnent 20 euros par mois pendant 5 ans, on peut acheter un appartement. Donc un petit don, et en soi c'est 20 euros, mais en réalité c'est 5 euros parce qu'il y a 75% de...
Qui est déduit,
voilà. Mais c'est déjà un geste énorme. Et nos donateurs réguliers, ils sont très importants, en fait, parce que c'est des petits dons au quotidien. En fait, les gros dons sont bien, mais les petits dons au quotidien, c'est ça qui... C'est vraiment la force. Si je prends un exemple, aujourd'hui on a 2000 parrains-marraines qui ont permis en 15 ans d'acheter 62 appartements. Donc si je prends un exemple concret, si toutes les personnes aujourd'hui qui nous écoutent ou les 1,4 million que tu as sur Instagram donnaient ne serait-ce juste 1 euro, bah, on pourrait acheter des dizaines d'appartements et accompagner des dizaines et des centaines de personnes, en fait. Et c'est ça l'objectif, ces petits dons, ça aura une très grande action derrière.
C'est vrai. Vous avez tous entendu, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Voilà, si chacun garde un peu d'espoir, on peut tous réussir à faire les choses bien dans la vie. Ce mot est simple, et pour le faire, ben c'est simple. C'est un bonjour, c'est un regard, un sourire. C'est pour ceux qui le peuvent, parce que c'est vrai qu'à notre époque, la vie est de plus en plus compliquée pour tout le monde. Mais comme le disait le chargé de communication... un petit geste financier, eh ben, répété sur des centaines de personnes, ben, ça peut, en fin d'année, permettre à des gens de s'en sortir et puis après de laisser la place à d'autres en disant « Moi, j'ai réussi, bon courage à vous et gardez l'espoir. » Voilà.
Très bien. Eh ben, merci pour vos deux messages et d'être venu. Merci d'avoir raconté ton histoire.
Merci à toi. À votre invitation au plaisir.
Bah oui, et puis à vous qui nous écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets toutes les infos sur toi, moi, en description, dans tous les cas. Et voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et à faire des dons, et voilà quoi. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.